Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant.
Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école.
Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change.
Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves.
Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du Congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Marina Barraud, qui donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation à Montpellier. Marina est psychomotricienne de formation et diplômée d'un MBA HEC. Dirigeante en entreprise pendant 20 ans, Marina fonde sa première entreprise de coaching de dirigeants en 2009. En 2012, elle lit un article qui parle de déscolarisation. À cet instant, 150 000 jeunes sont déscolarisés chaque année. C'est le déclic. Marina décide de monter l'association Ce que je veux faire plus tard pour permettre à chaque jeune de révéler son potentiel et trouver sa juste place dans le monde. Je vous souhaite une belle écoute.
Selon vous, c'est un chiffre que je viens d'avoir, en 2018, combien de jeunes de 16 à 25 ans ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation. Donc vous avez le choix entre 100 000, 700 000 et 963 000. Donc on va voter. Qui pense que c'est 100 102 ? En France, pardon. En France, 100 000. Moi, je dis, il y a des jeunes qui sont jusqu'à 25 ans, à peu près 10 millions. Donc là, on est dans les 16-25, je ne sais pas exactement, je dirais 7 millions. Bon, enfin, voilà, il y a plusieurs millions. Donc, qui dit 100 000 ? OK. Qui dit 700 000 ? OK. Et qui dit 963 000 ? Bon, c'est à peu près équivalent 700 et 900. Effectivement, c'est presque un million. Donc, moi, je vais vous raconter un peu l'histoire qui a fait que, il y a 7 ans, j'ai créé Ce que je veux faire plus tard, l'association. Il y a 7 ans, je lis un article, en 2012 exactement, je lis un article qui dit qu'en France, chaque année, 150 000 jeunes sont déscolarisés. Et là, je suis quand même un peu prise d'effroi. Je me dis 150 000 jeunes de moins de 16 ans en France qui n'ont pas cette chance d'avoir l'école, il faut que j'agisse. Alors moi, j'y connais pas grand-chose à tout ça. Juste, j'ai toujours aimé l'école. L'école m'a permis d'avoir la vie formidable que j'ai eue. Et je me dis, il faut que j'aide les jeunes. Donc moi, je viens du monde de l'entreprise. J'ai commencé par c'est marqué dans le doc. J'ai commencé par un diplôme de psychomotricité parce que quand j'avais 18 ans, je suis allée voir une conseillère d'orientation. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous aimez ? Alors moi, j'aimais les maths. J'aimais les langues. Elle m'a dit, il faut faire une école de commerce. Alors j'ai dit, ah non, moi je veux travailler dans le social. Alors elle m'a proposé plein de trucs et finalement, je suis arrivée à Paris pour faire un diplôme de psychomotricité. Alors c'était plus pour aller à Paris, parce que mon petit copain de l'époque allait à Paris, que pour faire le diplôme de psychomotricité. Mais voilà, j'ai eu ce diplôme-là, j'ai beaucoup aimé les études, mais très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement ce pour quoi j'étais faite. Et à l'époque, c'était simple. C'était dans les années, un peu avant les années 90, et on regardait le journal, on répondait à des annonces, et puis on trouvait un job. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis rentrée dans le monde de l'entreprise. Bon, ma vie, mon œuvre, c'est pas très intéressant, mais en tout cas, je me dis, à cette époque, en 2012, il faut aider les jeunes. Et je me dis, pour les aider à sortir de l'école, évidemment, je fais un raccourci, je me rends compte aujourd'hui que c'est pas du tout le cas. Les enfants sortent de l'école, pas uniquement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, mais je me dis, il faut vraiment les aider à savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, parce que quand on sait ce qu'on veut faire plus tard, on va à l'école, quoi. L'école, c'est un moyen. Et donc, ce que je veux faire plus tard permet aux jeunes de mieux se connaître. Mieux se connaître, ça veut dire mieux se comprendre. Comprendre sa singularité, son unicité, ses forces, ses talents. Apprendre confiance en soi. Parce que alors là, je me suis rendu compte que c'était vraiment une grosse, grosse difficulté des jeunes. Pas que des jeunes, d'ailleurs, mais une grosse difficulté chez les jeunes. Prendre confiance en soi, en son potentiel, et après de s'engager, devenir acteur de sa vie. Voilà, ça démarre comme ça, en fait. En 2012, je lis l'article, je mets deux copains autour de la table, puis je dis, il faut aider les jeunes. Alors, on fait le premier séminaire, ce que je veux faire plus tard, chez moi. Parce que je me dis, pour les aider, moi, je suis coach, je suis devenue coach après avoir été dirigeante d'entreprise et je me dis, on va faire un groupe de 12. Alors, j'appelle mes copains, mes copines, ils me disent, ah ouais, alors là, vraiment, moi, mes gamins, ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire plus tard, etc. Et donc, ça se passe à ce moment-là, en avril 2013, exactement comme ça se passe aujourd'hui. Et donc, on les aide à ça. Alors, comment on fait? Donc, je vous ai expliqué pourquoi on le faisait, comment on fait. Eh bien, en fait, on a un triptyque. Le triptyque, c'est tête, cœur, corps. Alors là, vous avez vécu juste avant le corps. Vous avez vu à quel point le corps, ça fait du bien quand même. Je vous sens beaucoup plus concentré que vous l'étiez quand je suis arrivée sur scène et c'est normal. Donc, on s'appuie sur un modèle basé sur les neurosciences. Tout à l'heure, Catherine vous a beaucoup parlé des neurosciences. Et souvent, on me dit, mais pourquoi vous avez choisi cette méthode? Alors, j'ai choisi l'approche neurocognitive et comportementale. Quand on est coach, on a plein de modèles de compréhension de l'être humain. Je veux dire, on n'en manque pas. Et d'ailleurs, ça ne manque pas. Nous, on a choisi celui-là. Enfin, c'est moi qui l'ai choisi parce que ça parle de motivation. Et moi, quand j'étais petite, mes parents étaient ouvriers, ils n'y connaissaient rien aux études. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un diplôme de psychomotricité. Ils ne m'ont pas dit « tu fais ci ou tu fais ça », ils m'ont dit « fais ce que tu aimes ». Ce n'est pas si simple, même quand on aime de nous dire ça, ce n'est pas simple, parce que qu'est-ce que j'aime, je ne sais pas trop. Et donc, l'approche neurocognitive et comportementale, c'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure, je vais vous parler du modèle. C'est une méthode qui, entre autres, parle des motivations. Donc, je me suis dit, c'est drôlement bien de partir de là pour aider les jeunes à savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Et puis, autour de la table, quand j'ai mis des copains, il y avait quelqu'un qui travaille beaucoup sur le corps, sur tout ce qui est énergétique et sur vraiment la force du corps. Et moi, plus ça vient, plus je sais cette force du corps. Donc, le corps, pourquoi? On fait beaucoup d'activités d'expression, pas que des activités d'énergie, comme vous l'avez vu. Mais rien que ça, vous avez vu, c'est quand même se montrer, finalement, se montrer dans une posture à laquelle on n'est pas habitué. Donc, le corps va permettre de montrer, de voir les motivations, parce que vous allez voir tout à l'heure, les motivations, elles se voient. Dans les comportements de tous les jours. Ça permet aussi de prendre confiance en soi, parce que quand on fait quelque chose, la plupart du temps, on réussit. C'est comme ça. Quand on ne le fait pas, on a peur de ne pas réussir, mais quand on le fait, la plupart du temps, on réussit. Puis si on ne réussit pas tout de suite, on réussira plus tard. Et puis, ça permet aussi d'ancrer les apprentissages et de faire vraiment d'un apprentissage et d'une connaissance qu'on a, de l'ancrer vraiment dans ses comportements. C'est ce qui se passe dans les activités avec ce que je veux faire plus tard. On se transforme parce qu'il y a quelque chose qui est autour du corps. Mais tout ça, ça serait absolument pas possible de faire ça avec des jeunes. Nous, on s'adresse aux 14-25 ans. Ça serait pas possible s'il n'y avait pas le cœur et nos quatre accords de fonctionnement. Donc, on a quatre accords de fonctionnement, l'écoute, la co-responsabilité, la confidentialité et la bienveillance. Et ce ne serait pas possible sans cette bienveillance qui va permettre à chacun de se découvrir, de s'autoriser à se montrer tel qu'il est et d'apprendre à montrer le plus profond de qui il est. Voilà, donc ça, c'est comment on s'y prend. Ça permet vraiment d'ancrer ce qui se passe. Et puis, je vais vous parler donc pendant la conférence, tout à l'heure, de la première partie qui est la connaissance de soi avec l'approche neurocognitive et comportementale. Et en fait, on va parler de ce qu'on aime. Alors, certains aiment comprendre. D'ailleurs, tout à l'heure, j'entendais des questions. Par exemple, la question qui a été posée, il y a combien de jeunes? Vous voyez, tout de suite, il y a une question, on n'y va pas à l'intuition, on commence à réfléchir. Donc, certains aiment comprendre. D'autres aiment se promener dans la nature, observer. D'autres vont aimer être avec leurs amis, leur famille. Et puis, d'autres vont aimer les défis, se dépasser. On en reparlera tout à l'heure. Et vous? Qu'est-ce que vous aimez? Alors, je vous invite, là, pendant l'espace de 5 minutes, on va timer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, d'échanger avec la personne qui est à côté de vous. Vous pouvez vous mettre à 3 si vous voulez. Et si la personne, vous ne la connaissez pas, c'est bien aussi. de faire connaissance. Vous parlez avec la personne d'à côté, vous lui dites, ben, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est... Et si vous ne savez pas, parce que parfois on est un peu sec, on n'a pas trop envie de dire, vous vous souvenez d'un moment que vous avez vécu dans la semaine dernière, ou la semaine d'avant, ou le mois dernier, ou je ne sais pas quand, à un moment donné où vous étiez vraiment en joie, vous vous êtes dit, c'est top. Je vous laisse 5 minutes, 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre, c'est parti. Parlez-vous.
À demi, donc ça va, ça va.
Ils me font finir à... Bien, je vais reprendre votre attention. Je reprends votre attention. Ouh ! En coaching, on fait comme ça. Génial. J'adore ces moments. Bon, on pourrait échanger sur dans quel état d'esprit ça vous met, quelle est l'énergie, etc. C'est important de temps en temps de regarder ce qu'on aime. Alors, donc vous avez sans doute pu le voir, on aime des choses différentes et c'est tant mieux. Alors, on va maintenant parler donc des motivations. Donc ça, c'est un des premiers éléments, un des piliers de notre démarche, la tête, la partie théorique en fait. Donc les motivations, on va parler motivation. Tout à l'heure, Catherine parlait des motivations intrinsèques. Ben, on va parler des motivations intrinsèques. Puis après, on parlera un tout petit peu des motivations extrinsèques. Donc là, tout à l'heure, quand vous avez parlé des choses que vous aimiez, vous étiez dans vos motivations, qu'on appelle les motivations intrinsèques, primaires, profondes, comme on veut. Donc, comment on peut les définir? On leur donne des caractéristiques. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Pourquoi on fait ça? La plupart du temps, quand il y a quelque chose que vous aimez et qu'on vous dit « Mais pourquoi tu fais ça ?», il y a une espèce de blanc. D'ailleurs, avec les jeunes, quand on est dans des séjours, des activités, on leur dit, il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'aime le foot. » Alors, on lui dit « Mais pourquoi tu aimes le foot ?» Et alors là, il nous regarde, il a l'air de dire « Je pense qu'il lui manque des neurones, à celle-ci. » Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de cognitif. C'est vraiment intrinsèque, c'est parce que j'aime ça. Et d'ailleurs, ils le disent très rapidement, les jeunes. Quand on le fait avec des jeunes, ils disent très rapidement « parce que j'aime ça ». Les adultes, ils vont chercher un peu de rationalité, mais quand on est dans une activité qu'on aime, on le fait parce que j'aime ça. Et après, comment ça se passe dans ton cœur? Qu'est-ce que tu ressens? Donc là, ils disent « joie, plaisir, bien-être, ça me vide la tête, tout ça ». Et quand est-ce que tu le fais? Je le fais inconditionnellement, dès que je peux. Et surtout, indépendamment du résultat. Donc j'aime bien prendre l'exemple du foot, parce que ça parle à tout le monde. Une fois, qu'est-ce que t'aimes? Moi, j'aime le foot. D'ailleurs, je voudrais plus tard être joueur de foot professionnel. OK? Mais quand il pleut, est-ce que tu joues au foot? Alors pareil, là, il vous regarde, un air de dire, non, mais pareil, là, il lui restait deux neurones, il n'y en a plus qu'un. Bah oui, évidemment, bien sûr, peu importe les conditions. Mais si tu perds, bien sûr, je recommence. La motivation primaire, sa caractéristique, c'est je le fais dès que je peux, j'ai du plaisir quand je le fais, et juste j'aime ça. Il n'y a pas je le fais parce que il y a ça. Et le dernier élément, pour le reconnaître, quand quelqu'un vous parle de quelque chose qu'il aime, vous allez le voir, ça fait briller ses yeux. Si la personne vous dit « j'adore être avec vous aujourd'hui », vous vous dites Le corps ne ment pas, en fait. Le corps dit, et on va voir que les motivations, elles se voient dans les comportements. Donc voilà, là, si dans les activités que vous avez évoquées, ça remplit ces trois conditions et que vous aviez des étoiles dans les yeux quand vous en avez parlé, eh ben, vous êtes dans vos motivations primaires. Alors évidemment, on est dans une société, on est avec d'autres, donc on a aussi des motivations secondaires. Hein. Qui dit motivation primaire dit motivation secondaire, parce que comme on dit aux jeunes, ben, parfois vous ne faites pas les choses que vous aimez. Ben oui. Alors pourquoi vous les faites ? Ben parce qu'il faut, parce que je dois. Ben oui, ça nous arrive tous et toutes de faire des activités qu'on n'aime pas. Alors, est-ce que vous savez ce qui vient en tête de chapitre que les jeunes n'aiment pas? On ne parle pas de l'école, c'est trop facile de dire « j'aime pas l'école ». Mais qu'est-ce qu'ils n'aiment pas faire? Ranger le lave-vaisselle. Qui a dit ça? Ranger le lave-vaisselle. C'est même pas ranger leur chambre, c'est ranger le lave-vaisselle. Bon. Donc, pourquoi je le fais? Parce qu'il faut, parce que je dois. Comment je me sens quand je le fais? Alors, ça, c'est très important. Et pour tous ceux qui travaillent avec les jeunes dans le domaine de l'école, en fait, il y a deux possibilités. Bon, j'aime pas faire ça, mais si j'ai le résultat, je suis satisfait. Je suis content. En revanche, si j'ai pas le résultat, alors là, je suis super frustrée. Et c'est vraiment la différence entre une motivation primaire et une motivation secondaire. Une motivation primaire, je le fais, j'ai pas le résultat. Bah, par exemple, on verra tout à l'heure, moi j'aime jouer. Bon, évidemment, je préfère gagner, mais je préfère jouer et perdre que pas jouer. Vous avez certaines personnes, elles préfèrent ne pas jouer parce qu'elles pensent qu'elles vont perdre. OK ? Donc c'est vraiment, vraiment, j'aime le faire pour le résultat. Alors on va faire la différence, par exemple, entre les personnes qui aiment ranger. J'aime ranger. Voilà, moi je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Je connais des gens, pas moi, qui aiment ranger. Et vous avez des gens qui aiment ranger parce qu'ils aiment quand c'est rangé. Vous voyez la différence ? Et en plus, il y a des gens qui rangent parce qu'ils n'aiment pas quand c'est dérangé. Ah, voyez, c'est compliqué. Bon. Donc, en tout cas, si j'obtiens le résultat, je suis satisfait. Si je n'obtiens pas le résultat, je suis frustré. Et la dernière fois, dans une classe, j'explique ça. Et il y a un gamin qui me dit, bah, c'est exactement moi. La dernière fois, j'ai travaillé pendant 2 jours sur mon contrôle de maths. Tout, sans m'arrêter, j'ai eu 5. Ah là, j'en pouvais plus. J'ai dit, je ne ferai plus jamais. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Parce que s'il avait aimé les maths, bah, finalement, bah, peut-être qu'il aurait dit, bon, bah, OK, je repars sur autre chose. Donc, ce n'est pas pareil quand on aime et quand on n'aime pas. Et ça, c'est motivation. Donc, quand est-ce que je le fais? Quand il faut, hein, vous voyez, tout ça, vous avez compris. Il n'y a pas d'étoile dans les yeux, évidemment. Et il existe 8 motivations primaires, je vais le dire tout à l'heure. Le modèle dit, c'est un modèle basé sur les neurosciences, le modèle dit qu'on en a entre 2 et 4 sur les 8 et que surtout, ça se fige entre 0 et 6 mois. Donc, on est tous calmes. C'est fini. Alors, j'ai vu des petits, là. Et en plus, il n'y a pas de lien avec l'éducation. 2 jumeaux peuvent avoir des motivations différentes. Et ça va être, ne me demandez pas de détailler, parce qu'il faudrait plus que la conférence, mais c'est le lien que le bébé va entretenir avec son environnement. Donc, voilà, c'est indépendant de l'éducation. Donc, il existe 8 personnalités primaires. Donc, je vais vous les détailler, je vais vous les expliquer. Vous pouvez prendre des notes, évidemment, enfin voilà, mais sinon, on a écrit un livre blanc sur tout ce qui est écrit là, donc vous pourrez tout retrouver sur notre site. Alors, c'est assez simple de s'en souvenir, ça s'appelle cequejeveuxfaireplustard.com, voilà, et vous pouvez retrouver tout ça dans le détail. Mais vous pouvez prendre des photos, écrire, enfin, vous êtes libre, hein. Donc, oui, motivation, je vais vous les détailler, puis je vais vous donner des exemples, et je vous invite, évidemment, à vous reconnaître. Si vous vous reconnaissez, je ferai un petit point à un moment donné. Je dirais, mais qui se reconnaît? Alors, parfois, vous dites, ah, je ne suis pas sûre. Bah, c'est OK, hein. Vous avez le droit de ne pas être sûre. Et puis, parfois, c'est complètement évident. Vous verrez que pour une ou deux motivations, c'est très évident. Puis, pour les autres, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est primaire, secondaire? Je ne sais pas. Alors, la première motivation, bah, comprenez bien, hein, les activités, en fait, la personne qui a créé ça les a regroupées en famille. Donc, la première motivation, c'est le philosophe. Le philosophe, sa phrase, c'est « je reste calme en toutes circonstances ». Le philosophe, il est cool. Le philosophe, il aime observer. Il aime prendre son temps. Moi, je dis, il est sensoriel, multisensoriel. Il aime voir des belles choses, il aime écouter, il aime ressentir. C'est vraiment quelqu'un qui peut observer. Moi, j'ai une de mes deux filles qui a du philosophe. Elle dit « je peux rester une journée à regarder mon chat ». Pour ceux à qui ça parle, bon, une journée, j'exagère, c'est mon côté méridional, mais elle peut vraiment rester 2 heures à regarder son chat. Donc, y en a à qui ça va parler, il y en a à qui ça ne va pas parler. Ben, y en a qui ont plutôt du philosophe, puis il y en a qui n'en ont pas. Le philosophe aussi, on le reconnaît parce que le matin, entre le moment où il se réveille et le moment où il peut y avoir une activité sociale, il faut à peu près 2 heures. Là aussi, il y en a qui se reconnaissent. Et là, vous voyez, c'est super important pour les jeunes, parce que parfois, il y en a, ils ont du philosophe, mais ils sont dans une famille qui n'a pas du tout de philosophe. Hein. Donc, le matin, ils sont sur le pont. Alors, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de philosophe, mais quand j'étais petite, ma mère, que ce soit à 5h du matin, à 7h, à 9h, à 10h, elle était toujours sur le pont. Et elle m'expliquait les nouvelles. Donc, j'arrivais, je trempais mes trucs dans mon petit déjeuner, mais elle était toujours sur le pont. Pas de philosophe, hein. Mais ceux qui ont du philosophe, il leur faut à peu près 2 heures. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans la salle vont se reconnaître. Il y en a, ils se lèvent beaucoup plus tôt que tout le monde. Comme ça, ils sont sûrs de ne croiser personne. Qui se reconnaît? Je passe un peu de temps sur la première, un peu moins de temps sur les suivantes. Oui! Vous voyez que ça va être compliqué pour les enfants qui ont du philosophe, parce qu'on les réveille, parce que, ben oui, on l'a dit tout à l'heure, on les réveille très tôt le matin, et puis on les réveille, puis après, il faut qu'ils bossent tout de suite. Alors ça, c'est compliqué. Le philosophe... Je pourrais parler, je vais le faire pour le premier, puis après, pour les autres, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas le temps. Mais on peut parler des défauts, et des petits défauts et des grandes qualités. Une fois, il y a une jeune fille qui me dit, oui, moi, dans ma famille, ça ne le fait pas, on me dit que je suis de tense. D'ailleurs, après, il y a une soirée, après nos séjours, elle a dit devant tout le monde, elle a dit, voilà, moi, mes parents me disent que je suis de tense. Donc, les parents sont venus me voir, m'ont dit, je suis vraiment désolée, Marina. Non, mais moi, c'est pas grave. Hein, moi, c'est plutôt avec elle. Hein, parce que c'est quelqu'un qui prend son temps, mais qui a une très grande qualité, c'est qu'il observe. Donc, il ne loupe rien. Vous le mettez dans un groupe de 10 personnes, il peut vous parler de chacune des personnes avec beaucoup de pertinence, parce qu'il ne loupe rien. C'est vraiment une des grandes qualités du philosophe. Il y en a d'autres, parce qu'il est toujours de bonne humeur, enfin, il prend la vie du bon côté, mais une de ses principales qualités, c'est d'observer. Et on pourra faire ça sur chacune des motivations. La deuxième motivation, c'est le novateur. Le novateur, il aime comprendre. D'ailleurs, là, les novateurs qui sont dans la salle, ils ont déjà 1000 questions. Mais comment on sait que c'est entre 0 et 6 mois et pas entre 0 et 8 mois? Mais comment ils ont trouvé ça? Alors moi, qui n'ai pas de novateur, je ne vais pas vous expliquer, il y a des bouquins là-dessus, vous allez voir, c'est formidable. Donc le novateur, il aime comprendre comment ça marche. Moi, j'ai une de mes deux filles, j'en ai deux, et elle a du novateur. D'ailleurs, elle est en école d'ingénieur aujourd'hui, elle adore ça. Et elle rentre un jour, elle me dit « Maman, est-ce que tu sais comment fonctionne la soudure à l'arc ?» Mais non, ma chérie, je ne sais pas. Mais je m'en moque. Je vais vraiment avec plaisir t'écouter 5 minutes, mais le reste, je m'en moque. Vous allez voir, quand elle était petite, elle me disait, parce que son papa aussi, il a du novateur, elle me disait, tu sais, c'est pas très intéressant d'apprendre les leçons avec toi. Moi, j'ai toujours été très bonne élève. J'avais compris ce qu'on me demandait. Donc, j'apprenais pour avoir une bonne note. Motivation secondaire, sauf en maths, parce que j'adorais ça. Donc, elle me dit, c'est pas intéressant d'apprendre les leçons avec toi. Parce que toi, tu me poses des questions. Moi, je veux creuser mes sujets. Le novateur, il aime creuser ses sujets. Et tous les sujets. Les novateurs, ils peuvent rester des heures, des nuits devant les documentaires d'Arte. Tous les passionnent. Mais surtout, ils aiment comprendre comment les choses fonctionnent. Une fois en école, il y a une jeune fille qui me dit « Moi, ce que j'aime, c'est voir comment ça marche. » Alors, une fois, je me suis rendu compte qu'il y avait, dans un appareil, il y avait de la musique qui sortait. J'ai dit à ma mère « Mais pourquoi il y a de la musique qui sort de cet appareil ?» Enfin, ceux qui ne se sont jamais posé la question comme moi, vous la regardez, vous dites « Oui, c'est vrai, c'est particulier quand même. » comme Et alors, elle dit, ma mère m'a dit « T'as pas besoin de savoir. » Alors, j'ai attendu qu'elle parte faire des commissions et j'ai tout ouvert. Ouais. J'ai pas plus trouvé, mais j'ai tout ouvert. Et une autre, une fois, elle m'a dit, mon père, il n'en peut plus, j'arrête pas de lui poser des questions. Et je lui dis, ta dernière question, c'était quoi? Elle me dit, je lui ai demandé, quelle est la nationalité de Dieu? Et je lui dis, qu'est-ce qu'il a fait? Elle m'a dit, il m'a mis une claque, il n'en peut plus que je pose des questions. Mais on va voir que les enfants, petits, ils posent des questions et qu'au bout d'un moment, certains nous disent, je ne pose plus de questions parce que j'embête tout le monde. Une motivation primaire, hein, ça s'auto-entretient, mais ça peut aussi s'abîmer. Alors, l'animateur, bah, vous en avez un devant vous, une devant vous, c'est quelqu'un qui aime animer, qui aime jouer, qui aime rire, qui aime le mouvement. Donc, si, quand j'étais petite, l'hyperactivité avait existé, je pense qu'on aurait dit que j'étais hyperactive. Sauf, j'ai besoin de bouger. Et quand j'ai commencé à travailler, je changeais de job tous les ans. Je trouvais ça très bien. Nouveauté. Moi, j'aime la nouveauté. Et ma mère me disait, mais c'est encore pas assez. Je dis, non, j'ai envie de faire autre chose, tout ça. Bon. L'animateur, il aime bouger, il aime changer, il aime faire des choses nouvelles, il aime le mouvement. Donc, parfois, dans vos classes, vous en voyez, ils trépignent. Alors, les animateurs, vous les reconnaissez, hein, parce qu'au bout de 5 minutes où vous parlez, il y a un stylo qui tombe dans la pièce. Parce que ça va lui permettre de se décaler et de prendre le stylo. Dans les moments les plus dramatiques, c'est la trousse qui tombe. La dernière fois, je fais une conférence dans une classe de seconde. Enfin, il y a toutes les classes de seconde d'un collège. Et à un moment donné, je vois la prof, elle monte en haut de l'amphi. Il y avait 150 gamins. Elle monte en haut de l'amphi. Elle prend un gamin, elle le descend devant. La honte, quoi, le pauvre, hein, devant moi, comme ça. Le gamin, il arrive en bas, il explose sa trousse. Et il ramasse tout, il n'arrêtait pas de bouger. Et donc, j'ai pris son exemple. J'ai dit, je fais l'hypothèse que tu te retrouves dans cette motivation. Il me dit, c'est tout à fait moi. Donc, vous voyez, c'est important parce que ces enfants-là, quand ils comprennent ça, ils savent qu'ils ont besoin de mouvement. Et donc, s'ils ne trouvent pas à l'école, parce que ce n'est quand même pas l'endroit où on bouge le plus, eh bien, il va le retrouver ailleurs. Alors, il y a un truc que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas demandé qui se retrouvait dans le novateur. Ouais. Et maintenant, dans l'animateur, qui se retrouve? Oui, alors souvent, quand on a de l'animateur, qu'on est prof, ça aide hein, aussi, hein, quand on en est... Donc l'animateur, il a 15 idées. Hein. Ça bouge aussi dans sa tête. Hein. Ça ne bouge pas que dans les mouvements, ça bouge aussi dans sa tête. Après, on a le gestionnaire. Alors le gestionnaire, ce qu'il aime, c'est organiser, structurer. Ça peut être dans les faits, mais ça peut être aussi les structures, les organisations. Le gestionnaire, il aime prévoir. Alors, si... est-ce que au premier rang... Est-ce qu'on a des gestionnaires? Vous ne savez pas trop encore. Le gestionnaire, il aime organiser, prévoir. Normalement, les gestionnaires, ils ont toujours dans leur sac Kleenex et Doliprane. Moi, j'ai une copine, elle a du gestionnaire. Elle a du gestionnaire. Un jour, je lui ai dit, on allait prendre un thé en terrasse. Et puis, alors, je m'étais blessée. Il fallait que je mette de l'écran total sur la petite cicatrice que j'avais. Et puis, je lui ai dit, attends, je vais chercher quelque chose dans ma voiture. Elle me dit, mais t'as besoin de quoi? Je lui ai dit, de l'écran total. Elle me dit, mais j'en ai, t'inquiète pas. Elle ouvre son sac, il y a tout, quoi, tout. Alors, souvent, on me dit, non, mais ça, c'est quand on est maman. Mais pas du tout! Pas du tout. Moi, mes filles, je suis partie en week-end, elles n'avaient pas de chaussures, pas de petites culottes. Enfin, ma fille qui a du gestionnaire, à 7 ans, elle m'a dit, maman, je vais faire ma valise. Je lui ai dit, c'est une très bonne idée, ma chérie. Donc, il se reconnaît dans le gestionnaire maintenant. Ah oui! Ah! Alors, moi, j'adore les gestionnaires. Les gestionnaires, souvent, dans les défauts qu'on leur reconnaît, on leur dit, ils sont chiants. Ben oui, parce qu'ils pensent à tout ce qui peut se passer. Ils pensent, ils se disent, il peut se passer ça, donc je vais prévoir ça et tout. Mais alors, du coup, ils disent aux autres, non, mais attends, là, ça doit... Alors, le coronavirus, là, les gestionnaires doivent être dans un état proche de l'Ohio, là. La dernière fois, j'étais avec des profs, et puis, on est à Paris, et puis, alors, il y avait risque de... Comment ça s'appelle d'inondation. Et alors, il y a un prof qui me dit, moi, je suis allé chercher, je vous donne en mille ce qu'elle est allée chercher. Indépendamment du papier de toilette, tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait comme réserve? Des boîtes. Des bottes. Non, non, pour la maison. Non. Des bougies. Vous avez du gestionnaire, vous. Non, mais des bougies. Je lui dis, pourquoi des bougies? Elle me dit, c'est la première chose qui va disparaître, l'électricité. Bravo! Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est que soit quand on n'a pas ça, il faut vraiment valoriser ce qui existe de différent parce que ça peut être utile. Et d'ailleurs, cette méthode, pour moi, une de ses forces, c'est de donner de la tolérance. Parce que ce qui nous énerve chez l'autre, on va l'apprécier à sa juste valeur et au pire, ça va nous faire sourire. Alors, après, on a le stratège. Le stratège qu'il aime, c'est l'harmonie. L'harmonie sociale, l'harmonie physique. Il aime les belles choses. Alors, ça peut être simplement l'art, les expos, ça peut être la façon de s'habiller, mais aussi l'harmonie sociale. Donc, il aime donner la place à chacun. Il aime valoriser les potentiels, les développer. C'est un leader naturel parce qu'il va donner une place à chacun et il va emmener tout le monde. Sa phrase préférée, c'est « tous ensemble avec moi ». Il est capable de dire quand il arrive s'il y a une chaise qui est d'une couleur qu'il ne fallait pas. Enfin, voilà, il est très soucieux de ça. Et dans une classe, c'est très important parce que vous avez des leaders naturels. Ces leaders naturels, si vous les avez dans votre poche, je peux vous dire que tout se passe bien, quoi. Une fois, on intervient dans une classe SECPA, puis on fait des percussions brésiliennes pour doper le truc au début. Et puis, à un moment donné, il y a un gamin, il sort du groupe. Il se met devant tout le monde, là, son petit groupe, parce que c'était des instruments différents, et il a expliqué à tout le monde comment il fallait faire. J'ai dit au prof, celui-là, là, s'il est en positif, il va faire le truc, ça va marcher. S'il est en négatif, ça va faire dans le même sens, hein, parce qu'il va emmener tout le monde là où il ne faut pas. Mais c'est des leaders naturels. Alors maintenant, on a le compétiteur. Alors là, ça va être très intéressant, parce que tout à l'heure, j'écoutais la conférence de Catherine, et on parlait des notes. Et donc, la critique. Alors, une des caractéristiques du compétiteur, il aime le défi, il aime faire plus, il aime faire mieux tout le temps, tout le temps. Donc, la critique, pour lui, c'est quelqu'un qui est très critique. Et c'est quelqu'un qui aime se différencier. Donc ça, on les reconnaît dans les... Quand vous voyez, par exemple, les hommes qui sont à la défense, ils sont tous habillés en noir, tout ça, mais ils ont des chaussettes. Et vous regardez les chaussettes, et ils ont des chaussettes d'une couleur un peu improbable. Donc vous dites, bon, il reste d'avoir du compétiteur. Le compétiteur, lui, il aime faire la différence, il aime se progresser. Donc pour lui, la critique, il adore ça. Ça l'aide. Et vous avez des gamins, vous leur dites, t'as 8, il faut que t'aies 10. Eh bien, ça va le stimuler. Puis vous en avez d'autres, les philosophes, ça les met en dessous de tout, quoi. Donc, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. Il y a comment on fait avec celui qui est là. Sachant que quand on est parent, si nous, on aime la compète, on estime que la compète, c'est bien, quoi. Mais si nous, on a un enfant qui n'aime pas la compète, c'est moins bien. Donc, on reconnaît les compétiteurs. Alors, attendez, j'ai encore oublié. Vous voyez, ça, c'est mon côté gestionnaire, on a vu. C'est mon côté animateur. Le stratège, qui se retrouve dans les stratèges? Yes. Le stratège, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai du stratège. Quand j'étais petite, ma mère me mettait un haut de pyjama différent du bas de pyjama. Insupportable. Mes enfants, jamais j'ai fait une chose pareille. Mais vous voyez, c'est vraiment, c'est des petites choses. Hein. Le compétiteur, qui se retrouve dans le compétiteur? Yes. Alors, une fois, on a un jeune dans un séjour, il nous a dit, je vais être le premier à manger le premier granola du premier paquet de gâteaux. C'est vraiment de la compète pour tout, quoi. C'est les jeunes qui, vous savez, qui disent, je vais aller plus vite que la voiture au feu rouge. Les jeunes ou les moins jeunes, hein, parce qu'on a ça tout le temps. Le participatif, c'est quelqu'un qui aime le lien, c'est quelqu'un qui aime la relation. Lui, ce qui est important pour lui, c'est la relation. Il aime les bisous, les câlins, c'est quelqu'un qui aime être avec ses amis, avec sa famille, qui va mieux travailler en équipe. Vous mettez un participatif tout seul, vous obtenez 50% de ce qu'il est capable de faire. Vous le mettez en groupe, pof, ça démultiplie. C'est pour ça que vous avez parfois des jeunes. Moi, je sais que ma fille qui a du participatif, je la faisais travailler quand elle était petite avec sa copine. Déjà, ça m'agaçait moins. Et puis, avec sa copine, ça marchait tout de suite mieux, dis donc. Donc, vraiment, ça, c'est une fois encore, c'est des leviers de motivation. Qui se retrouve dans le participatif? Oui, hein, normalement, quand on travaille avec les enfants, on a du participatif ou du solidaire ou du stratège, qui sont les motivations qui vont être dans le social. Le solidaire, c'est quelqu'un qui aime être utile, qui aime aider les autres et la plupart du temps, qui aime aider les démunis. On a une jeune fille, elle nous dit, moi, je sors de la boulangerie, je me suis acheté un sandwich. Si je vois un SDF, je lui donne mon sandwich et je suis heureuse de le faire. Je ne le fais pas parce que je me dis, c'est bien, les valeurs, tout ça. Moi, combien de fois je me suis dit, oh là là, Marina, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Quand je voyais les gens, le SAMU social à Paris, franchement, je me dis, mais c'est vrai, je meurs, moi, si on me met là-dedans, parce que je n'ai pas de solidaire. Mais les gens qui le font et qui aiment ça, eh ben, ça leur donne vraiment à chaque fois de la joie. C'est vraiment une motivation primaire. Qui se retrouve dans le solidaire? Eh oui. OK. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on en a entre 2 et 4. Et que ça se fige entre 0 et 6 mois. Est-ce que quelqu'un ne s'est trouvé aucune motivation? Ah ben, je suis contente. Et est-ce que quelqu'un s'en est trouvé plus que 4? Ouais. Alors, les stratèges. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le stratège aussi? Ouais. Alors, le stratège, il aime l'harmonie. Alors, il trouve des trucs un peu partout. D'ailleurs, c'est un des défauts qu'on lui reconnaît. Moi, la première fois qu'on m'a dit ça, moi qui ai du stratège, je me dis, mais n'importe quoi, je ne suis pas du tout comme ça. Mais si, en fait, on est un peu de la vie de tout le monde. On trouve toujours un truc qui est bien dans ce que les gens disent. Ah non, mais tu changes d'avis. Ben non, mais ce qu'il a dit, je reconnais ça. Donc, le stratège, souvent, il se retrouve dans plusieurs. Mais n'oubliez pas, j'aime, je le fais inconditionnellement. Et quand je le fais, ça me donne de la joie. Donc, regardez ça. Et après, vous pouvez voir, parfois, c'est juste une primaire, une secondaire, mais ce qu'on appelle en bonne case, c'est-à-dire qui fonctionne. Quand ça fonctionne, on aime bien, quoi. Bon, alors maintenant, je vous ai dit, les motivations, c'est notre premier pilier. À quoi ça sert? Bah, vous avez compris, enfin, franchement, connaître ses motivations, c'est connaître les ingrédients dont j'ai besoin pour m'épanouir dans ma vie. Ce n'est pas que dans ma vie professionnelle, c'est aussi dans ma vie perso. C'est aussi de se dire, dans des moments de blues, bah, qu'est-ce qui va me faire du bien? Si j'ai du participatif, bah, je vais aller prendre un thé avec un copain, une copine, je vais entourer mes enfants, mon conjoint, enfin, je vais être avec les gens que j'aime. Et ça va me redonner de l'énergie. C'est vraiment une pile à énergie, la motivation. C'est ce qui va vous remonter en énergie, qui va vous donner la possibilité de faire des choses que vous aimez moins. C'est d'ailleurs une des possibilités, là non plus on ne va pas pouvoir en parler maintenant, parce que là il faudrait que j'accélère normalement beaucoup, mais ça va vous permettre d'aller faire des choses que vous aimez moins. Voilà, bon, je passe vite. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que je veux faire plus tard. Donc on a commencé, moi j'ai commencé à faire un séjour chez moi. Bon, à la fin de la semaine, les jeunes étaient emballés, le début de semaine, ils ne veulent pas venir, encore aujourd'hui, 60 séminaires plus tard, tout ça, ils ne veulent pas venir, mais après, ils ne veulent plus repartir. Donc très vite, on s'est dit, il faut aller dans les écoles, parce que d'abord, il y a plein de jeunes qui ne veulent pas venir à nos séminaires, il y en a qui ne peuvent pas le faire, parce que c'est financé par les parents. On s'est dit, il faut aller dans les écoles. Et très vite, on est allé dans une école, moi je me souviens, la première école dans laquelle on est allé, c'est une école de primo-arrivants. Alors je ne sais pas si ici, il y a des gens qui travaillent avec les primo-arrivants, on était en 3 UPE 2A. Bon, en gros, ça veut dire des jeunes qui arrivent en France et qui ne parlent pas français. Bon, alors la prof m'appelle, alors j'étais super contente, je me dis, ah, ça marche, notre truc. Et puis, au bout de 5 minutes, je lui dis, mais primo-arrivants, ils ne parlent pas français. Elle me dit, ah non, ils ne parlent pas français. Ça va être simple d'expliquer mes motivations là, mais on y arrive. C'est des jeunes qui ont énormément d'énergie et très vite on se rend compte que même dans un atelier de 3 heures, eh ben, il se passe quelque chose. Donc notre démarche, tête, cœur, corps, elle fonctionne avec tous les âges, dans tous les contextes, avec tous les situations. Donc voilà, séjour et atelier dans les établissements scolaires pour les particuliers. Je passe assez vite pour les particuliers. On a un stand qui est là, avec Dominique et Marielle qui sont là, puis moi je serai là aussi. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on fait pour les particuliers, on fait des séjours de 5 jours, à partir de 14 ans jusqu'à 25 ans, à Paris, à Lyon et à Marseille, sur des groupes de 12 jours, de 12 jeunes, et on vous en dira plus. Aujourd'hui, moi j'ai envie de vous parler de ce qu'on fait dans les collèges et les lycées, toujours avec les profs. Donc on fait des ateliers découverte, parce que très vite, on est allé dans les écoles, et les profs nous disaient, mais il faudrait que vous soyez là tous les jours. Et très vite, on s'est dit, mais non, on va vous donner ce qu'on a appris. Parce qu'on a appris des choses en 7 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on a appris plein de choses avec les jeunes. Ils nous ont appris énormément de choses. Donc on s'est dit, on va vous le donner, on va vous le diffuser, on va le diffuser parce que ça marche et qu'on a vraiment envie que ça change. Voilà, moi, j'ai une jolie carrière dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, si je me bats tous les jours, c'est pour donner les outils qu'on a trouvés qui fonctionnent à tout le monde, aux parents, aux éducateurs, aux profs, à tous les gens qui touchent de près ou de loin des jeunes. Donc, on a commencé par des ateliers découvertes. Un atelier découverte, c'est un atelier de 3 heures où les jeunes vont apprendre ce que c'est qu'une motivation primaire. Ils vont vivre ce que c'est qu'une motivation primaire. On va faire du théâtre, d'impro. On va faire des jeux avec eux. Et ils vont ressortir en ayant compris, touché du doigt ce que c'était. Après, on fait des parcours sur mesure. C'est-à-dire qu'au bout de 3 heures, ils nous disent on a envie d'en savoir plus. Et donc, on va faire des parcours de 1, 2, 3, 4, 5 ateliers. Et on intervient maintenant dans des collèges où on intervient à partir de la 6e jusqu'à la 3e. Et par exemple, je vous donne l'exemple de ce qu'on a fait dans le collège de Montfermeil. Donc Montfermeil, c'est dans le 93, avec des classes SECPA, donc des jeunes qui sont orientés dès la 6e en non général. Et maintenant, au bout de 3 ans, en 3e, on n'a plus d'absentéisme et on n'a que de l'orientation choisie versus de l'orientation subie avant. Donc là, on intervient avec les équipes de ce que je veux faire plus tard. On forme les profs et les profs, tout au long de l'année, vont utiliser les outils qu'on diffuse. Et puis, on fait aussi, depuis septembre dernier, on nous a demandé de faire l'équivalent d'un séjour dans une classe. Alors, on a pris toutes les classes de 3e d'un collège avec les 3 profs principaux. Il y avait 3 classes, 3 profs principaux, 6 groupes et on est parti 3 jours. Et là, on a fait le point avec la direction du collège qui nous a dit que c'est la première année que je n'ai aucun problème avec les 3e. Donc il y a encore d'autres effets collatéraux. Non seulement les jeunes apprennent à mieux se connaître, prennent confiance en eux, deviennent acteurs de leur vie, de leur orientation, mais en plus, entre eux, ça fonctionne mieux. Alors on a une vidéo, et j'ai envie de vous la montrer. Normalement, si tout va bien, ça marchait tout à l'heure, ça devrait marcher. Donc là, je parle pour vous expliquer le principe. Alors il faut que je mette du son. C'est donc ces 3 classes qui viennent là, qui n'ont pas envie de venir hein, aussi. Alors attendez, je vais essayer de mettre du grand écran. Oui, ça marche. Donc les profs font partie intégrante des activités.
jumps to 2 feet creep of the road. To photo, to record me, lumps and war. Their ancestors his chance,
Bon alors, merci. Alors bon, vous le comprenez, l'impact, j'essaie de retrouver le plein écran. Bon, on ne va pas y passer 30 ans, ce n'est pas grave. Donc l'impact, ça augmente évidemment le bien-être des élèves, des profs, des familles. Ça va diminuer l'absentéisme, ça va diminuer le décrochage scolaire et ça va surtout augmenter l'orientation choisie. C'est ça qui nous importe. Et c'est que les jeunes deviennent acteurs de ce qu'ils font. Donc, notre formation, ce qu'on a décidé de faire, ça date d'il y a 2 ans, on a décidé de former les profs. Voilà. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est toucher 500 000 jeunes. Quand on aura touché 500 000 jeunes avec ça, on va vraiment changer les choses. Donc, on a créé cette formation pro pour le plus grand nombre, pour former les profs, les éducateurs, les coachs, les parents, tout le monde. Donc, c'est 4 fois 2 jours. Et c'est non seulement des outils, mais c'est aussi des éléments pour soi. Quand on suit cette formation, vous vous doutez bien que soi-même, on va changer. Donc là, c'est les prochaines dates, mais je voudrais pouvoir échanger avec vous. Je voudrais vous parler du témoignage d'Aude. Parce qu'en fait, je me suis dit, qui mieux qu'un prof peut parler au prof? Et donc, Aude, elle travaille avec nous à Montfermeil, dans cette classe SECPA, depuis 3 ans. Et elle a décidé de suivre la formation pro pour aussi former ses collègues, d'autres collègues. Là, on est en train d'étendre la démarche, ce que je veux faire plus tard, à tout le collège. Et on lui a dit, qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc, je vous lis son témoignage. Des apports théoriques pour comprendre comment fonctionnent nos élèves. Alors, elle donne les exemples, le positionnement grégaire, en fait, c'est les rapports de force, les personnalités, etc., les différents cerveaux. Des indices sur comment adapter les contenus aux personnalités, mettre des défis, faire des jeux pour apprendre, mettre de la couleur. Des astuces sur comment traiter la surcharge cognitive ou mettre en état de travailler, minute encore, minute de concentration avant un cours. Des connaissances sur le stress des élèves et des profs, comment ils se déclenchent, comment ils se manifestent, comment s'en sortir. Des activités qui déclenchent la prise de parole chez les élèves, temps forum, théâtre forum, exercice d'expression théâtrale. Les quatre accords de fonctionnement qui sont affichés dans ma salle et qu'on revoit assez régulièrement. Et ce que dit Aude, c'est qu'il n'y a aucun problème qui ne se règle pas avec les quatre accords de fonctionnement. Et elle expliquait que quand il y avait un problème, elle se tournait comme ça, puis elle regardait et ça calmait toute la classe parce qu'ils connaissaient les accords de fonctionnement. Une approche qui permet de changer ses rapports aux élèves et le rapport des élèves aux profs. Cela permet de se décentrer et d'aborder l'élève différemment, d'instaurer une autre relation, un autre dialogue. Ça permet un partage de pratiques entre collègues. Le but n'étant pas de tout faire, de tout utiliser, mais de prendre les infos et les activités adaptées qui fonctionnent. En tant que prof, j'ai vécu le séjour et c'est vraiment une approche qui permet de connaître les envies, les talents, les personnalités des enfants, ce qui change radicalement la vue qu'on peut avoir d'un élève. Et vous savez que quand on change de regard, on change de comportement et quand on croit en l'autre, il réussit. Évidemment, l'aspect théorique est important et super intéressant, mais ce qui change vraiment, c'est notre manière d'aborder les élèves. Ça permet aussi de ne pas prendre personnellement certaines réactions et de les comprendre. Ça permet, avec le temps, d'instaurer un climat de classe plus apaisé et de confiance. Bon, je pense que je vous ai convaincu, de toute façon. Là, c'est un autre témoignage. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a vraiment la volonté de développer ça au maximum. On cherche des financements pour que cette formation, à un moment donné, elle puisse être dispensée gratuitement au plus grand nombre et à ceux qui en ont le plus besoin. Mais pour le congrès, on offre 3 places pour la formation pro. Donc, il y a des conditions. Il faut que vous soyez prof en collège ou en lycée public. Il faut que vous ayez envie de vous engager à nos côtés pour déployer la démarche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire former vos collègues. Ça veut dire aller chercher des financements pour organiser des ateliers dans vos classes. Et nous, on vous offre cette formation pro, 4 fois 2 jours, avec les frais qui vont avec, puisqu'elle est à Paris. Et on animera un atelier de 3 heures dans votre classe, parce que tout ça, je vous le raconte, je pense que vous me croyez, mais c'est bien inférieur à ce qui se passe dans une classe ou pendant un séjour. Donc voilà, et maintenant, je crois que je peux répondre aux questions, parce qu'il reste quelques minutes.
Il nous reste 10 minutes. Questions ?
Vous pouvez faire. J'aime bien ce micro, là. C'est drôlement bien, hein.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, déjà, je voulais dire que je respecte tout ce que vous venez de dire et que je suis entièrement convaincue, déjà, par tout ce qui vient d'être dit. Je tenais quand même à rajouter, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants ici, d'après ce que j'ai compris. Je suis enseignante dans un collège public depuis maintenant bientôt 15 ans. Et tout ce que j'ai vu dans le film, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Je crois encore en l'école publique. Il y a plein de choses à révolutionner. Enfin, voilà.
J'aimerais.
Si je suis là, c'est parce que j'en suis consciente, je pense, sinon je ne serais pas là. Mais je reste convaincue qu'il y a plein d'enseignants qui font dans leur classe. Et pour le coup, j'y travaille, je le fais énormément. Et ce que j'ai vu, c'est des valeurs qui doivent être véhiculées par l'école.
Oui.
Tout ce qu'on a vu. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup ici. Enfin, les enseignants, je ne sais pas où ils sont, mais rassurez-moi, est-ce qu'il y en a beaucoup qui font aussi ça dans leur classe ? Enfin, non, il n'y en a pas ? Si, il y en a beaucoup. Voilà, et donc, je pense que vous êtes un plus pour intervenir, mais je voulais quand même défendre les enseignants, parce qu'il y en a beaucoup qui s'efforcent au quotidien de mettre cette dynamique en place au sein de leur classe. Et moi, c'est ce qui fait aujourd'hui que j'apprécie mon métier et que je le vis bien. Enfin, voilà. Je tenais à le dire quand même. C'est pas vraiment une question.
Nous, on intervient avec beaucoup de profs qui font déjà des choses merveilleuses. Après, si on peut apporter quelque chose en complément, on va pas, évidemment pas se substituer. Et moi, je suis un pur produit de l'école républicaine, donc j'y crois aussi.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai adoré votre présentation, je suis en reconversion professionnelle, en tout cas je me pose des questions, je suis vétérinaire à la base. Je suis peut-être la seule du coup aujourd'hui vétérinaire.
Est-ce qu'il y a une autre vétérinaire ou un autre vétérinaire ? Il y en a une deuxième ! Yes ! Bravo.
Merci. Alors, du coup, moi, c'est vraiment là-dedans que je souhaite me tourner. Est-ce que vous envisagez d'avoir ce concept, enfin, peut-être pas tout à fait, mais pour les plus petits, pour les primaires, maternelles ?
Alors, oui. Parce que, en fait, quand j'ai créé ce que je veux faire plus tard, c'était vraiment en me disant, les gamins, ils décrochent en quatrième. C'est ce qui m'est venu. Parce que moi, j'ai aidé beaucoup de jeunes en quatrième qui décrochaient à cause des maths. Donc, j'en ai fait une généralité. En fait, le décrochage et le harcèlement, ça se passe en primaire. Donc, évidemment, on veut descendre. Évidemment, enfin, on a des gamins qui éclatent en larmes à 14 ans en disant, à 8 ans, je me suis fait harceler. Donc, oui, on veut descendre. Bon, maintenant, voilà. C'est une question de temps et c'est une question d'énergie, de budget, de tout ça. Mais plus on ira tôt, la bienveillance, c'est à la maternelle qu'elle s'apprend. Hein. Le respect, enfin, moi, j'interviens pour la mixité dans les entreprises et je leur dis, tant que vous n'aurez pas créé la mixité dans les classes, arrêtons de rêver, quoi. C'est pas la peine. Oui.
Attendez, il faut vraiment respecter l'ordre du micro, sinon...
Je croyais que c'était là, pardon.
Du coup, bonjour. Ma question, c'est est-ce que quand vous intervenez, c'est une demande vraiment du collège ou est-ce que c'est aussi une demande d'un prof d'un collège qui...
Alors, c'est toujours... Nous, on ne fait aucune prospection. On est toujours appelé. C'est toujours un prof. Ça peut être un prof, ça peut être un CPE, ça peut être un proviseur, un principal... La première fois qu'on est intervenu à Montfermeil, c'est parce qu'on était financé par une fondation et la fondation travaillait déjà avec eux. La première année, quand on est arrivé, il y avait 3 profs autour de la table. La deuxième année, il y en avait 25 parce qu'ils ont vu ce qui se passait. Mais on est toujours appelés. Yes.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, j'enseigne en lycée professionnel depuis 15 ans, donc en zone prioritaire. J'ai été balancée un petit peu du jour au lendemain aussi à renseigner à des CAP MHL, maintien et hygiène des locaux. Donc ça ne fait pas rêver hein, dans un premier temps. Donc vous parlez d'orientation choisie, mais est-ce que l'orientation choisie est toujours possible ? Parce qu'effectivement, on a un climat de classe, j'ai réussi à trouver des buts à leur apporter, parce que c'est quand même de l'entretien des locaux, hein, ça ne fait pas rêver beaucoup de monde. Mais elles veulent tous être esthéticiennes, pas entretenir les locaux. Donc elles ont choisi une première orientation, mais qui n'est pas possible.
Alors, bon, je pourrais répondre très longuement. La première chose, c'est que les jeunes vont faire 15 ou 20 métiers différents. Donc rien n'est définitif. Ça, vraiment, quand un jeune me dit « j'ai 14 ans, ma vie est finie », donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, on se bat dans ces classes SECPA pour que l'orientation soit choisie. On ne peut pas être sur tous les combats. Et c'est pour ça qu'on veut former les profs, parce que ce qu'on a appris, ce qu'on connaît, on veut... Après, comme le dit Aude, c'est à utiliser comme on peut. Ce n'est pas au moment où ils sont en, comme vous dites, MHL, qu'on va pouvoir intervenir sans doute autant qu'on le voudrait. Mais en amont... Enfin, quand le directeur des classes SECPA m'a dit « j'ai plus d'absents, j'en ai un qui était dans une bande, donc on ne peut pas le sortir, je ne veux pas dire qu'il y a 100% de présentéisme », il me dit aujourd'hui « les élèves viennent en classe même quand il n'y a pas cours, parce qu'ils se sentent bien là où ils sont ». Et en troisième, l'année dernière, on n'a eu que des orientations choisies. Enfin, voilà, je dis juste le résultat de ce qui est. Tout n'est pas possible, mais déjà, si on arrive à faire progresser ça, on arrivera à faire progresser la société. Parce que nous, pourquoi on se bat ? Parce qu'on sait que quand on est à sa place, on contribue à un monde meilleur. Enfin, ça, c'est sûr. Quand vous êtes heureux, vous ne faites pas de mal. Hein. Ben, voilà, c'est basique. Donc, tout n'est pas possible. Toutes les orientations choisies, on n'y arrivera pas pour tous. Et puis après, ce sur quoi j'insiste aussi, c'est qu'on va pouvoir faire, en fonction de sa motivation, son métier d'une façon ou d'une autre. Quand on me dit « je veux être médecin », ça ne veut rien dire. Entre un chef de clinique, un vétérinaire, un médecin de campagne, il n'y a rien à voir. Donc, mais comment je vais faire mon métier en nourrissant mes motivations primaires ? Et là aussi, on va changer des choses. Et puis, moi, je suis très utopiste et je me dis peut-être que la personne qui a fait ça, demain, elle aura une entreprise de nettoyage et qu'elle va aller dans sa motivation qui est le stratège et de mobiliser les gens. Je ne sais rien. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment Madame Possible et je crois en la capacité. J'en ai vu tellement des situations se retourner. Je crois vraiment à la capacité des jeunes de pouvoir faire ça, mais j'y croirai jusqu'au dernier moment de ma vie. J'ai vu des jeunes qui avaient 5 de moyenne en avril et qui avaient leur bac dans cette matière, dans des matières qui sont complexes. Enfin, voilà, j'y crois, quoi. Et quand on y croit, ils y croient. Yes.
Moi, c'était plus une question par rapport au financement.
Oui.
Parce que vous êtes, c'est une entreprise, non ?
C'est une association, à but arrivez, non lucratif.
Du coup, vous arrivez à avoir des financements, par exemple, de l'ARS ?
Bah, on arrive à rien du tout. Mais on va y arriver. En fait, on est une association à but non lucratif. Moi, je viens du monde de l'entreprise. J'ai toujours dépensé les sous que je gagnais. Donc, on a organisé des séjours qui, voilà. Bon, mais les séjours sont un peu moins de 1 000 euros, donc c'est quand même coûteux. Mais si on les faisait payer au coût réel, bah, ça serait quasiment le double parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent avec nous. Moi, je suis bénévole depuis 6 ans. Voilà, mais maintenant, il faut qu'on trouve des financements pour former les profs, c'est sûr. Donc maintenant, moi, je vais voir les entreprises. Avant, j'allais voir les entreprises en leur disant, il faut qu'on fasse des ateliers pour les jeunes, tout ça. Ils me regardaient gentiment, ils me disaient, mais ça ne marche pas votre truc. Alors, je sais que ça marche, mais bon. Maintenant, je leur dis, on va former les profs. Alors, ça, je ne sais pas, tout à coup, ils aiment bien. Donc, je dis, je vais voir GMF et je leur dis, GMF, vous allez faire la promo 2020. Vous aurez une promo de 15 profs et vous allez payer pour ça. Et là, ils disent oui. Alors, ils n'ont pas signé encore. Mais, en tout cas, le projet a l'air de leur convenir.
Et en tout cas, j'ai fait pas mal de projets comme ça aussi. Et du coup, ce qui marche bien, c'est l'Agence régionale de santé, parce qu'en fait, on travaille sur le bien-être.
Mais bien sûr.
Voilà, je ne sais pas si vous avez...
Voilà, non, alors, en fait, on a testé notre démarche de dire on accueille des profs, parce que moi, il y a des profs qui travaillent avec nous depuis longtemps, que j'adore. Donc, j'ai dit, ils ne peuvent pas payer, on va les faire intervenir gratuitement. C'est pour ça que notre projet, c'est de dire on offre 3 places, mais il faut que les gens derrière, ils aillent chercher des budgets ou ils aillent former d'autres personnes, parce que... Il faut qu'on s'appuie sur des gens qui vont démultiplier ce qui se passe avec Aude, avec Anne-Sophie, qui démultiplient dans leur collège, qui vont chercher des budgets. Nous, on peut aider, parce que nous, on va chercher des budgets, mais on ne peut pas être les seuls. Mais c'est une bonne idée, l'ARS.
Dernière question.
Postuler. Alors, attendez, oui, il y a l'adresse.
C'est la dernière. Hein.
Puis on est là, hein, on est là sur le stand, donc on peut vous répondre pour les autres.
Moi, je voudrais vous dire merci beaucoup pour ce que vous faites. Et si on peut déjà avoir conscience que dès le bébé, dès le tout petit, s'il sait qu'il porte en lui des potentialités et que ça peut le porter toute sa vie dans la société, pour la société, alors il y aura moins de soucis tout au long.
Merci. C'est joli comme mot de la fin. Qu'est-ce que tu en dis, Marina ?
Moi, ce que j'ai envie de vous dire, j'ai été élevée comme ça. Mes parents n'avaient pas d'argent, mais ils m'ont dit tout est possible. Et toute ma vie, j'ai fonctionné comme ça. Tout était possible. Avec ce que je veux faire plus tard, il y a 2 ans, je me suis dit je vais arrêter. C'est pas possible, j'en peux plus, quoi. Enfin, je voyais tous ces jeunes en souffrance, tout ce qu'on faisait, on n'obtenait aucun budget, j'arrivais pas à payer les gens. Enfin, c'était horrible. Et puis un jour, donc on fait des semaines. Pour les enfants, pour les particuliers. Et puis après, on les revoit en week-end. Et donc, je partage avec eux. Je leur dis, j'en peux plus. Je pense que je me pose la question d'arrêter. Je leur dis le samedi. Et le dimanche matin, on fait des temps forums où on partage là où on en est. Et il y a une jeune fille qui me dit, Marina, tu ne peux pas faire ça. Tu nous sauves la vie. Donc, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas arrêter. Et je me suis dit, j'ai une responsabilité, c'est ma mission de vie et je vais m'y employer. Et je pense qu'en formant les profs tels qu'on est en train de faire ça, on va réussir à le faire. Et c'est avec vous tous qu'on réussira à le faire. Mais oui, quand on croit en l'autre, il réussit, j'en suis certaine. Donc, bravo à vous.
Bravo.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois, partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.